1, 9. Une fin pire qu'une mort. Nous voudrions laisser là, pour n'en plus reparler jamais, cet homme qui avait porté 3 ans ce titre auguste, président de l'Assemblée nationale de France, et qui n'avait su être que le domestique de la majorité. Il trouva moyen, à sa dernière heure, de descendre encore plus bas qu'on ne l'aurait cru possible, même à lui. Sa carrière à l'Assemblée avait été d'un valet, sa fin fut d'un laquais. L'attitude inouïe que M. Dupin eut devant les gendarmes, en grimaçant son semblant de protestation, autorisa même des soupçons. Gambon s'écria, il résiste, comme un complice, il savait tout. Nous croyons ces soupçons injustes. M. Dupin ne savait rien. Qui donc, parmi les machinateurs du coup d'État, eût pris la peine de s'assurer son adhésion? Corrompre M. Dupin? Était-ce possible? Et puis, à quoi bon? Le payer? Pourquoi? C'est de l'argent perdu, quand la peur suffit. Il y a des connivences toutes faites d'avance. La couardise est la vieille complaisante de la félonie. Le sang de la loi versé est vite essuyé. Derrière l'assassin qui tient le poignard, arrive le trembleur qui tient l'éponge. Dupin s'enfuit dans son cabinet. On l'y suivit. « Mon Dieu ! S'écria-t-il, on ne comprend donc pas que je veux rester en paix ?» On le torturait, en effet, depuis le matin, pour extraire de lui une impossible parcelle de courage. « Vous me maltraitez plus que les gendarmes » disait-il. Les représentants s'installèrent dans son cabinet, s'assirent à sa table, pendant qu'il gémissait et bougonnait sur un fauteuil, et rédigèrent un procès-verbal de ce qui venait de se passer, voulant laisser dans les archives trace officielle de l'attentat. Le procès-verbal terminé, le représentant Canet en donna lecture au président et lui présenta une plume. « Que voulez-vous que je fasse de ça ? » dit-il. « Vous êtes le président. » répondit Canet. « C'est notre dernière séance. Votre devoir est d'en signer le procès-verbal. » Cet homme refusa. 1.10 La porte noire. M. Dupin est une honte incomparable. Plus tard, il accepta le paiement. Il paraît qu'il fut quelque chose comme procureur général à la Cour de cassation. M. Dupin rend à Louis Bonaparte le service d'être à sa place le dernier des hommes. Continuons cette sombre histoire. Les représentants de la droite, dans le premier effarement du coup d'État, coururent en grand nombre chez M. Daru, qui était vice-président de l'Assemblée et en même temps un des présidents de la Réunion des Pyramides. Cette réunion avait toujours appuyé la politique de l'Élysée, mais sans croire à des préméditations de coup d'État. M. Daru demeurait rue de Lille, numéro 75. Vers 10 heures du matin, une centaine environ de ses représentants étaient rassemblés chez M. Daru. Ils résolurent de tenter de pénétrer dans le lieu des séances de l'Assemblée. La rue de Lille débouche dans la rue de Bourgogne, presque en face de la petite porte qui donne entrée dans le palais, et qu'on nomme la Porte Noire. Ils se dirigèrent vers cette porte, M. Daru en tête. Ils se tenaient sous le bras et marchaient 3 par 3. Quelques-uns avaient revêtu leurs écharpes. Ils les ôtèrent plus tard. La Porte Noire, entr'ouverte comme à l'ordinaire, n'était gardée que par 2 factionnaires. Quelques-uns des plus indignés, M. de Kerdrel, entre autres, se précipitèrent vers cette porte et cherchèrent à la franchir. Mais elle fut violemment refermée, il y eut là, entre les représentants et les sergents de ville qui accoururent, une sorte de lutte où un représentant eut le poignet foulé. En même temps, un bataillon rangé en ligne sur la place de Bourgogne s'ébranla et arriva au pas de course sur le groupe des représentants. M. Daru, très noble et très ferme, fit signe au commandant d'arrêter. Le bataillon fit halte, et M. Daru, au nom de la Constitution et en sa qualité de vice-président de l'Assemblée, somma les soldats de mettre bas les armes et de livrer passage aux représentants du peuple souverain. Le commandant du bataillon répliqua par l'injonction de vider la rue immédiatement, déclarant qu'il n'y avait plus d'assemblée, que, quant à lui, il ne savait pas ce que c'était que des représentants du peuple, et que, si les personnes qu'il avait devant lui ne se retiraient pas de gré, il les expulserait de force. « Nous ne céderons qu'à la violence, » dit M. Daru. « Vous êtes en forfaiture, » ajouta M. de Kerdrel. L'officier donna ordre de charger. Les compagnies s'avancèrent en rang serré. Il y eut un moment de confusion, presque un choc. Les représentants refoulés violemment refluèrent dans la rue de Lille. Quelques-uns tombèrent. Plusieurs membres de la droite furent roulés dans la boue par les soldats. L'un d'eux, M. Étienne, reçut dans l'épaule un coup de crosse. Ajoutons sans transition que 8 jours après, M. Étienne était membre de cette chose qu'on a appelée la commission consultative. Il trouvait bon le coup d'État, y compris le coup de crosse. On revint chez M. Daru. Chemin faisant, le groupe dispersé se rallia et se recruta même de quelques survenants. « Messieurs, dit M. Daru, le président nous fait défaut, la salle nous est fermée. Je suis vice-président, ma maison est le palais de l'Assemblée. » Il fit ouvrir un grand salon et les représentants de la droite s'y installèrent. On y délibéra d'abord assez tumultueusement. Cependant, M. Daru fit observer que les moments étaient précieux, et le silence se rétablit. La première mesure à prendre était évidemment la déchéance du président de la République, en vertu de l'article 68 de la Constitution. Quelques représentants, de ceux que j'avais servi à baptiser et qu'on appelait « burgraves », s'assirent autour d'une table et préparèrent la rédaction de l'acte de déchéance. Comme ils allaient en donner lecture, un représentant qui arrivait du dehors se présenta à la porte du salon et déclara à l'assemblée que la rue de Lille s'emplissait de troupes et qu'on allait cerner l'hôtel. Il n'y avait pas une minute à perdre. M. Benoît d'Azy dit « Messieurs, allons à la mairie du 10e arrondissement. Nous pourrons délibérer là sous la protection de la 10e Légion, dont notre collègue, le général Lauriston, est colonel. » L'hôtel de M. Daru avait une issue sur les derrières par une petite porte qui était au fond du jardin. Beaucoup de représentants sortirent par là. M. Daru se disposait à les suivre. Il ne restait plus que lui dans le salon avec M. Odilon Barrault et 2 ou 3 autres quand la porte s'ouvrit. Un capitaine entra et dit à M. Daru, « Monsieur le comte, vous êtes mon prisonnier. » « Où dois-je vous suivre ? » demanda M. Daru. « J'ai ordre de vous garder à vue dans votre maison. » L'hôtel, en effet, était occupé militairement. Et c'est ainsi que M. Daru fut empêché d'assister à la séance de la mairie du 10e arrondissement. L'officier laissa sortir M. Odilon Barrault. 1.11. La haute cour. Pendant que ceci se passait sur la rive gauche, vers midi, on remarquait dans la grande salle des pas perdus du palais de justice un homme qui allait et venait. Cet homme, soigneusement boutonné dans son paletot, semblait accompagné à distance de plusieurs souteneurs possibles. De certaines aventures de police ont des auxiliaires, dont la figure, à double sens, inquiète les passants, si bien qu'on se demande, sont-ce des magistrats, sont-ce des voleurs ? L'homme au paletot boutonné errait de porte en porte, de couloir en couloir, échangeant des signes d'intelligence avec les espèces d'estafiers qui le suivaient. Puis revenait dans la grande salle, arrêtait au passage les avocats, les avoués, les huissiers, les commis greffiers, les garçons de salle, et répétait à tous, à voix basse, de façon à ne pas être entendu des passants, la même question. À cette question, les uns répondaient oui, non, disaient les autres. Et l'homme se remettait à rôder dans le palais de justice avec la mine d'un limier en quête. C'était le commissaire de police de l'arsenal. Que cherchait-il ? La haute cour. Que faisait la haute cour ? Elle se cachait. Pourquoi faire? Pour juger?
Oui et non.
Le commissaire de police de l'arsenal avait reçu le matin, du préfet Maupas, l'ordre de chercher partout où elle serait la haute cour de justice, si par aventure elle croyait devoir se réunir. Confondant la haute cour avec le conseil d'État, le commissaire de police était allé d'abord au quai d'Orsay. N'y ayant rien trouvé, pas même le conseil d'État, il était revenu à vide et s'était dirigé à tout hasard vers le palais de justice. Pensant que puisqu'il y avait à chercher la justice, il la trouverait peut-être là. Ne la trouvant pas, il s'en alla. La haute cour s'était pourtant réunie. Où et comment? On va le voir. À l'époque dont nous écrivons en ce moment l'histoire, avant les reconstructions actuelles des vieux édifices de Paris, quand on abordait le palais de justice par la cour de Harlay, un escalier peu majestueux vous conduisait en tournant dans un long corridor nommé Galerie Mercière. Vers le milieu de ce corridor, on rencontrait deux portes, l'une à droite qui menait à la cour d'appel, l'autre à gauche qui menait à la cour de cassation. La porte de gauche ouvrait à deux battants sur une ancienne galerie, dite de Saint-Louis, récemment restaurée et qui sert aujourd'hui de salle des pas perdus aux avocats de la cour de cassation. Une statue de Saint-Louis, en bois, faisait face à la porte d'entrée. Une entrée, pratiquée dans un pan coupé à droite de cette statue, débouchait sur un couloir tournant terminé par une sorte de cul-de-sac que fermaient en apparence deux doubles portes. Sur la porte de droite, on lisait « Cabinet de Monsieur le Premier Président ». Sur la porte de gauche, « Chambre du Conseil ». Entre les deux portes, on avait ménagé, pour servir de passage aux avocats qui allaient à la salle de la Chambre civile, qui est l'ancienne grand-chambre du Parlement, une sorte de boyau étroit et obscur dans lequel, selon l'expression de l'un d'eux, on aurait pu commettre tous les crimes impunément. Si on laissait de côté le cabinet du premier président et si l'on ouvrait la porte sur laquelle était écrit « Chambre du Conseil », on traversait une grande pièce, meublée d'une vaste table en fer à cheval qu'entouraient des chaises vertes. Au fond de cette chambre, qui servait en 1793 de salle de délibération aux jurés du tribunal révolutionnaire, une porte coupée dans la boiserie donnait entrée dans un petit couloir où l'on trouvait deux portes. À droite, la porte du cabinet du président de la chambre criminelle, à gauche, la porte de la buvette. À mort et allons dîner. Ces choses se touchent depuis des siècles. Une troisième porte fermait l'extrémité de ce couloir. Cette porte était, pour ainsi dire, la dernière du palais de justice, la plus lointaine, la plus inconnue, la plus perdue. Elle s'ouvrait sur ce qu'on appelle la bibliothèque de la cour de cassation. Spacieuse salle en forme d'équerre, éclairée de deux fenêtres donnant sur le grand préau intérieur de la conciergerie. Meublée de quelques chaises de cuir, d'une grande table à tapis vert et de livres de droit couvrant les murs du plancher jusqu'au plafond. Cette salle, on le voit, est la plus retirée et la plus cachée qu'il y ait dans le palais. Ce fut là, dans cette salle, qu'arrivèrent successivement le 2 décembre, vers 11 heures du matin, plusieurs hommes vêtus de noir, sans robe, sans insigne, effarés, désorientés, hochant la tête et se parlant bas. Ces hommes tremblants, c'était la haute cour de justice. La haute cour de justice se composait, au terme de la Constitution, de 7 magistrats, un président, 4 juges et 2 suppléants, choisis par la cour de cassation parmi ses propres membres et renouvelés tous les ans. En décembre 1851, ces 7 juges s'appelaient Ardoin, Pataille, Moreau, De La Palme, Cauchy, Grandet et Quesnot, les deux derniers suppléants. Ces hommes, à peu près obscur, avait des antécédents quelconques. M. Cauchy, il y a quelques années, président de chambre à la Cour royale de Paris, homme doux et facilement effrayé, était le frère du mathématicien membre de l'Institut, à qui l'on doit le calcul des ondes sonores, et de l'ancien greffier archiviste de la Chambre des pairs. M. de la Palme avait été avocat général, fort mêlé au procès de presse sous la Restauration. M. Pataille avait été député du Centre sous la monarchie de Juillet. M. Moreau, de la Seine, était remarquable en cela qu'on l'avait surnommé « de la Seine » pour le distinguer de M. Moreau, de la Meurthe, lequel, de son côté, était remarquable en ceci qu'on l'avait surnommé « de la Meurthe » pour le distinguer de M. Moreau, de la Seine. Le premier suppléant, M. Grandet, avait été président de chambre à Paris. J'ai lu de lui cet éloge. On ne lui connaît ni caractère ni opinion quelconque. Le second suppléant, M. Quesneau, libéral, député, fonctionnaire, avocat général, conservateur, docte, obéissant, était parvenu, se faisant de tout un échelon, à la chambre criminelle de la Cour de cassation, où il se signalait parmi les sévères. 1848 avait choqué sa notion du droit, il avait donné sa démission après le 24 février. Il ne l'a pas donnée après le 2 décembre. M. Hardouin, qui présidait la haute cour, était un ancien président d'assises, homme religieux, janséniste, rigide, noté parmi ses collègues comme magistrat scrupuleux, vivant dans Port-Royal, lecteur assidu de Nicole, de la race des vieux parlementaires du Marais, qui allait au palais de justice monté sur une mule. La mule était maintenant passée de mode, et qui fût allé chez le président Hardouin n'eût pas plus trouvé l'entêtement dans son écurie que dans sa conscience. Le matin du 2 décembre, à 9 heures, deux hommes montaient l'escalier de M. Hardouin, rue de Condé, numéro 10, et se rencontraient à sa porte. L'un était M. Pataille, l'autre, un des membres les plus considérables du barreau de la Cour de cassation, l'ancien constituant, Martin de Strasbourg. M. Pataille venait se mettre à la disposition de M. Hardouin. La première pensée de Martin de Strasbourg, en lisant les affiches du coup d'État, avait été pour la haute cour. M. Hardouin fit passer M. Pataille dans une pièce voisine de son cabinet et reçut Martin de Strasbourg comme un homme auquel on ne désire pas parler devant témoin. Mis en demeure par Martin de Strasbourg de convoquer la haute cour, il pria qu'on le laissât faire, déclara que la haute cour ferait son devoir, mais qu'il fallait avant tout qu'il conférât avec ses collègues, et termina par ce mot « ce sera fait aujourd'hui ou demain ».« Aujourd'hui ou demain !» s'écria Martin de Strasbourg. « Monsieur le Président, le salut de la République, le salut du pays dépend peut-être de ce que la haute cour fera ou ne fera pas. Votre responsabilité est considérable, songez-y. Quand on est la haute cour de justice, on ne fait pas son devoir aujourd'hui ou demain, on le fait tout de suite, sur l'heure, sans perdre une minute, sans hésiter un instant. » Martin de Strasbourg avait raison. La justice, c'est toujours aujourd'hui. Martin de Strasbourg ajouta, « S'il vous faut un homme pour les actes énergiques, je m'offre. » M. Hardouin déclina l'offre, affirma qu'il ne perdrait pas un moment et pria Martin de Strasbourg de le laisser conférer avec son collègue M. Pataille. Il convoqua en effet la haute cour pour 11 heures. Il fut convenu qu'on se réunirait dans la salle de la bibliothèque. Les juges furent exacts. À 11 heures et quart, ils étaient tous réunis. M. Pataille arriva le dernier. Ils prirent séance au bout de la grande table verte. Ils étaient seuls dans la bibliothèque. Nulle solennité. Le président Hardouin ouvrit ainsi la délibération. « Messieurs, il n'y a point à exposer la situation. tout le monde sait de quoi il s'agit. L'article 68 de la Constitution était impérieux. Il avait fallu que la haute cour se réunît sous peine de forfaiture. On gagna du temps, on se constitua, on nomma greffier de la haute cour M. Bernard, greffier en chef de la cour de cassation, on l'envoya chercher, et en l'attendant, on pria le bibliothécaire M. Denevers de tenir la plume. On convint d'une heure et d'un lieu où l'on se réunirait le soir. On s'entretint de la démarche du constituant Martin de Strasbourg, dont on se fâcha presque comme d'un coup de coude donné par la politique à la justice. On parla un peu du socialisme, de la montagne et de la République rouge, un peu aussi de l'arrêt qu'on avait à prononcer. On causa, on conta, on blâma, on conjectura, on traîna. Qu'attendait-on ? Nous avons raconté ce que le commissaire de police faisait de son côté. Et à ce propos, quand on songeait, parmi les complices du coup d'État, que le peuple pouvait, pour sommer la haute cour de faire son devoir, envahir le palais de justice, et que jamais il n'irait la chercher où elle était, on trouvait cette salle bien choisie. Mais quand on songeait que la police viendrait sans doute aussi pour chasser la haute cour, et qu'elle ne parviendrait peut-être pas à la trouver, chacun déplorait à part soi le choix de la salle. On avait voulu cacher la haute cour, on y avait trop réussi. Il était douloureux de penser que peut-être, quand la police et la force armée arriveraient, les choses seraient trop avancées et la haute cour trop compromise. On avait constitué un greffe, maintenant il fallait constituer un parquet. Deuxième pas, plus grave que le premier. Les juges temporisaient, espérant que la chance finirait par se décider d'un côté ou de l'autre, soit pour l'Assemblée, soit pour le président, soit contre le coup d'État, soit pour, et qu'il y aurait un vaincu, et que la haute cour pourrait alors en toute sécurité mettre la main sur le collet de quelqu'un. Ils débattirent longuement la question de savoir s'ils décréteraient immédiatement le président d'accusation ou s'ils rendraient un simple arrêt d'information. Ce dernier parti fut adopté. Ils rédigèrent un arrêt. Non l'arrêt honnête et brutal qui a été placardé par les soins des représentants de la gauche et publié, et où se trouvent ces mots de mauvais goût, crime et haute trahison. Cet arrêt, arme de guerre, n'a jamais existé autrement que comme projectile. La sagesse, quand on est juge, consiste quelquefois à rendre un arrêt qui n'en est pas un de ces arrêts qui n'engagent pas, où l'on met tout au conditionnel, où l'on n'incrimine personne et où l'on ne qualifie rien. Ce sont des espèces d'interlocutoires qui permettent d'attendre et de voir venir. Lorsqu'on est des hommes sérieux, il ne faut pas, dans les conjectures délicates, mêler inconsidérément aux événements possibles cette brusquerie qu'on appelle la justice. La haute cour s'en rendit compte. Elle rédigea un arrêt prudent. Cet arrêt n'est pas connu. Il est publié ici pour la première fois. Le voici. C'est un chef-d'œuvre du genre oblique. Extrait du registre de la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice, vu l'article 68 de la Constitution. Attendu que des placards imprimés, commençant par ces mots, le président de la République, et portant à la fin la signature Louis-Napoléon Bonaparte et de Morny, ministre de l'Intérieur. Les 10 placards portant, entre autres mesures, dissolution de l'Assemblée nationale, ont été affichés aujourd'hui même sur les murs de Paris que ce fait de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République serait de nature à réaliser le cas prévu par l'article 68 de la Constitution et rend indispensable au terme du dit article la réunion de la Haute Cour. Déclare que la Haute Cour de Justice est constituée, nomme, on laissa cette ligne en blanc. Elle ne fut remplie que plus tard par le nom de M. Renoir, conseiller à la Cour de cassation, pour remplir près d'elle les fonctions du ministère public. Pour remplir les fonctions de greffier, M. Bernard, greffier en chef de la Cour de cassation. Et pour procéder ultérieurement dans les termes du dit article 68 de la Constitution, s'ajourne à demain 3 décembre, heure de midi. Fait et délibéré en la Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs Ardouin, président, Pataille, Moreau, de la Palme et Cauchy, juge, le 2 décembre 1851. Les deux suppléants, Messieurs Grandet et Quesneau, offrirent de signer l'arrêt. Mais le président jugea plus régulier de ne prendre que les signatures des titulaires, les suppléants étant sans qualité quand la cour se trouve au complet. Cependant, il était 1 heure. La nouvelle commençait à se répandre au palais qu'un décret de déchéance avait été rendu contre Louis Bonaparte par une portion de l'Assemblée. Un des juges, sorti pendant la délibération, rapporta ce bruit à ses collègues. Ceci coïncida avec un accès d'énergie. Le président fit observer qu'il serait à propos de nommer un procureur général. Ici, difficulté. Qui nommer? Dans tous les procès précédents, on avait toujours choisi pour procureur général, près la haute cour, le procureur général près la cour d'appel de Paris. Pourquoi innover? On s'en tint au dit procureur de la cour d'appel. Ce procureur général était pour l'instant M. de Royer, qui avait été garde des Sceaux de M. Bonaparte. Difficulté nouvelle et longue discussion. M. de Royer accepterait-il? M. Ardouin se chargea d'aller lui porter l'offre. Il n'y avait que la galerie Mercière à traverser. M. de Royer était dans son cabinet. L'offre le gêna fort. Il resta interdit du choc. Accepter, c'était sérieux. Refuser, c'était grave. La forfaiture était là. Le 2 décembre, à 1 heure après-midi, le coup d'État était encore un crime. M. de Royer, ne sachant pas si la haute trahison réussirait, se hasardait à la qualifier dans l'intimité et baissait les yeux avec une noble pudeur devant cette violation des lois à laquelle, 3 mois plus tard, beaucoup de robes de pourpre, y compris la sienne, ont prêté serment. Mais son indignation n'allait pas jusqu'à l'accusation. L'accusation parle tout haut. De Royer n'en était encore qu'au murmure. Il était perplexe. M. Ardouin comprit cette situation de conscience. Insister eût été excessif. Il se retira. Il rentra dans la salle où ses collègues l'attendaient. Cependant, le commissaire de police de l'Arsenal était revenu. Il avait fini par réussir à déterrer, ce fut son mot, la haute cour. Il pénétra jusqu'à la chambre du conseil de la chambre civile. Il n'avait encore dans ce moment-là d'autre escorte que les quelques agents du matin. Un garçon passait. Le commissaire lui demanda la haute cour. « La haute cour ? » dit le garçon. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» À tout hasard, le garçon avertit le bibliothécaire qui vint. Quelques paroles s'échangèrent entre M. de Nevers et le commissaire. « Que demandez-vous ? » « La haute cour. Qui êtes-vous ? Je demande la haute cour. Elle est en séance. Où siège-t-elle ? Ici. » Et le bibliothécaire indiqua la porte. « C'est bien, » dit le commissaire. Il n'ajouta pas un mot et rentra dans la galerie Mercière. Nous venons de dire qu'il n'était accompagné en ce moment-là que de quelques agents. La haute cour était en séance, en effet. Le président rendait compte au juge de sa visite au procureur général. Tout à coup, on entend un tumulte de pas dans le couloir qui mène de la chambre du conseil à la salle où l'on délibérait. La porte s'ouvre brusquement. Des baïonnettes apparaissent. Et au milieu des baïonnettes, un homme en paletot boutonné avec une ceinture tricolore sur son paletot. Les magistrats regardent, stupéfaits. « Messieurs, dit l'homme, Dispersez-vous sur le champ. » Le président Ardoin se lève. « Que veut dire ceci? Qui êtes-vous? Savez-vous à qui vous parlez ?»« Je le sais. Vous êtes la haute cour et je suis le commissaire de police. Eh bien, allez-vous-en !» Il y avait là 35 gardes municipaux commandés par un lieutenant et tambour en tête. « Mais !» dit le président. Le commissaire l'interrompit par ces paroles qui sont textuelles. « Monsieur le président, je n'entamerai point de lutte oratoire avec vous. J'ai des ordres et je vous les transmets. Obéissez. » « À qui ? » « Au préfet de police. » Le président fit cette question étrange qui impliquait l'acceptation d'un ordre. « Avez-vous un mandat ?» Le commissaire répondit « Oui » et il étendit au président un papier. Les juges étaient pâles. Le président déplia le papier. M. Cauchy avançait la tête par-dessus l'épaule de M. Ardoin. Le président lut « Ordre de disperser la haute cour et, en cas de refus, d'arrêter messieurs Béranger, Rocher, de Boissieu, Pataille et Hélot. » Et se tournant vers les juges, le président ajouta « Signé Maupas. » Puis, s'adressant au commissaire, il reprit « Il y a erreur, ces noms-là ne sont pas les nôtres. Messieurs Béranger, Rocher et de Boissieu ont fait leur temps et ne sont plus juges de la haute cour. Quant à M. Hélot, il est mort. » La haute cour, en effet, était temporaire et renouvelable. Le coup d'État brisait la Constitution, mais ne la connaissait pas. Le mandat signé Maupas était applicable à la précédente haute cour. Le coup d'État s'était fourvoyé sur une vieille liste. Étourderie d'assassin. « Monsieur le commissaire de police, continua le président, vous le voyez, ces noms-là ne sont pas les nôtres. « Cela m'est égal, répliqua le commissaire. Que ce mandat s'applique ou ne s'applique pas à vous, dispersez-vous, ou je vous arrête, tous. » Et il ajouta, « Sur le champ. » Les juges se turent. Un d'eux prit sur la table une feuille volante qui était l'arrêt rendu par eux, et mit ce papier dans sa poche. Et ils s'en allèrent. Le commissaire leur montra la porte où étaient les baïonnettes, et dit, « Par là. » Ils sortirent par le couloir entre deux haies de soldats. Le peloton de gardes républicaines les escorta jusque dans la galerie Saint-Louis. Là, on les laissa libres, la tête basse. Il était environ 3 heures. Pendant que ces choses s'accomplissaient dans la bibliothèque, tout à côté, dans l'ancienne grand-chambre du Parlement, la cour de cassation siégeait et jugeait comme à son ordinaire, sans rien sentir de ce qui se passait près d'elle. Il faut croire que la police n'a pas d'odeur. « Finissons-en tout de suite de cette haute cour. » Le soir, à 7h30, les 7 juges se réunirent chez l'un d'eux. Celui qui avait emporté l'arrêt, dressèrent procès-verbal, rédigèrent une protestation, et comprenant le besoin de remplir la ligne laissée en blanc dans leur arrêt, nommèrent sur la proposition de M. Quesneau, procureur général, M. Renoir, leur collègue à la cour de cassation. M. Renoir, immédiatement averti, accepta. Ils se réunirent une dernière fois le lendemain, 3, à 11h du matin, 1 heure avant l'heure indiquée dans l'arrêt qu'on a lu plus haut, encore dans la bibliothèque de la cour de cassation. M. Renoir présent. Acte lui fut donné de son acceptation et de ce qu'il est déclaré requérir l'information. L'arrêt rendu fut porté par M. Quesneau au grand greffe, et transcrit immédiatement sur le registre des délibérations intérieures de la cour de cassation. La haute cour n'ayant point de registre spécial, et ayant, dès l'origine, décidé qu'elle se servirait du registre de la cour de cassation. À la suite de l'arrêt, on transcrivit 2 pièces désignées ainsi sur le registre. Premièrement, procès-verbal, constatant l'intervention de la police pendant le délibéré de l'arrêt précédent. Deuxièmement, donner acte de l'acceptation de M. Renoir pour les fonctions de procureur général. En outre, 7 copies de ces diverses pièces, faites de la main des juges eux-mêmes et signées de tous, furent mises en lieu sûr, ainsi qu'un calepin sur lequel avaient été transcrites, dit-on, 5 autres décisions secrètes relatives au coup d'État. Cette pièce du registre de la Cour de cassation existe-t-elle encore à l'heure qu'il est ? Est-il vrai, comme on l'a affirmé, que le préfet Maupas se soit fait apporter le registre et déchirer la feuille où était l'arrêt ? Nous n'avons pu éclaircir ce point. Le registre maintenant n'est communiqué à personne, et les employés du grand greffe sont muets. Tels sont les faits. Résumons-les. Si cette cour appelée haute eût été de tempérament à concevoir une telle idée que celle de faire son devoir, une fois réunie, se constituer était l'affaire de quelques minutes. Elle eût procédé résolument et rapidement, elle eût nommé procureur général quelque homme énergique tenant à la cour de cassation, du parquet, comme Frélon, ou du barreau, comme Martin de Strasbourg. En vertu de l'article 68, et sans attendre les actes de l'Assemblée, elle eût rendu un arrêt qualifiant le crime, lancé contre le président et ses complices un décret de prise de corps, et ordonné le dépôt de la personne de Louis Bonaparte dans une maison de force. De son côté, le procureur général eût lancé un mandat d'arrêt. Tout cela pouvait être terminé à 11h30, et à ce moment, aucune tentative n'avait encore été faite pour disperser la haute cour. Ses premiers actes accomplis, la haute cour pouvait, en sortant par une porte condamnée qui communique avec la salle des pas perdus, descendre dans la rue et y proclamer, à la face du peuple, son arrêt. Elle n'eut à cette heure rencontré aucun obstacle. Enfin, et dans tous les cas, elle devait siéger en costume, dans un prétoire, avec tout l'appareil de la magistrature. L'agent de police et les soldats se présentant, enjoindre aux soldats qui eussent obéi peut-être d'arrêter l'agent. Les soldats désobéissant se laissaient traîner solennellement en prison, afin que le peuple vît sous ses yeux, là, dans la rue, le pied fangeux du coup d'État posé sur la robe de la justice. Au lieu de cela, qu'a fait la haute cour ? On vient de le voir. Allez-vous-en, nous nous en allons. On se figure autrement le dialogue de Mathieu Mollet avec Vidocq.